Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour ou bien même de découvrir d'autres écrits du même auteur et ce, tranquillement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, en l'absence d'Hervé, ce sera Catherine. Bonjour Catherine.
Bonjour, j'assure, je suis là.
Bien, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Roman, nouvelle ?
Eh bien, je dirais nouvelle. Et même, alors, sur la page de titre, il y a un sous-titre et c'est micro-fiction.
Et ça n'est pas la même chose ?
Disons que ce sont des toutes petites nouvelles.
D'accord.
Voilà.
Alors, de quel auteur s'agit-il ?
Alors, c'est une autrice française qui s'appelle Gaëlle Josse. Alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Eh bien, juste...
pas grand-chose.
Jusqu'à hier, ça ne me disait pas grand-chose.
Bon, pour la situer, elle est née en 1960. Elle a fait des études de droit, de journaliste, de psychologie clinique et quelques années passées en Nouvelle-Calédonie. Bref, elle travaille comme rédactrice pour un site internet à Paris. Elle vit en région parisienne. Elle organise aussi des ateliers d'écoute musicale et d'écriture pour adultes et adolescents. Et évidemment, elle écrit surtout.
Des romans.
Alors oui, des romans, elle en a écrit une dizaine à peu près, mais elle a commencé par de la poésie. Je pense qu'elle a commencé en 2005 par publier des recueils de poèmes. Voilà.
Oui, c'est difficile de se faire une place avec des recueils de poésie. Hein.
C'est pas facile.
C'est pas facile.
Mais elle a trouvé des astuces dans le petit livre que je vous ai choisi. Il y a des petites phrases poétiques entre chaque petite nouvelle, voilà. Donc elle est venue à la littérature par la poésie et son premier roman est paru donc en 2010. Donc tu vois, elle a commencé à écrire en 2005, donc elle a écrit d'abord pas mal de poésie.
Une biographie aussi.
Oui, elle a écrit, alors le premier roman, Les Heures Silencieuses, ceux qui seront peut-être le plus connus, il y a Le Dernier Gardien d'Ellis Island en 2015... L'ombre de nos nuits aussi, qui est très poétique et qui parle à la fois de peinture et à travers la peinture, à travers un tableau, des regardeurs du tableau.
Voilà.
Et puis, oui, tu as tout à fait raison. Elle a écrit en 2019 Une femme en contre-jour et c'est une biographie de la photographe Viviane Maier.
Photographe que je ne connaissais pas et que je suis allé découvrir. Et j'incite tous nos auditeurs à faire de même parce que les photos sont magnifiques.
Ouais.
Magnifiques.
Et c'est une autodidacte.
Oui.
Donc, il fallait qu'elle arrive à se faire confiance pour...
Ouais. Voilà. Et donc, tu nous as choisi aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, je vous ai choisi la dernière parution de cet auteur. Ça a été publié cette année.
Ah oui,
c'est original.
C'est tout récent.
Voilà, c'est tout récent. Je recherche un peu mes petites pages. Ça s'appelle « À quoi songent-ils ceux que le sommeil fuit ?»
J'imagine que ça parle des insomniaques.
Qu'est-ce que t'es fort. C'est pour ça que quand tu dis au début « installez-vous bien dans votre canapé », ça peut être aussi les soirs où vous êtes accoudé devant la fenêtre et que vous n'arrivez pas à dormir. Écoutez cette lecture peut-être.
Peut-être que ça vous aidera à dormir.
Voilà. Donc, tu veux que tu
les
insomnies t'en dises plus ou ça
oui,
va
un petit peu plus.
Oui, alors c'est un sujet classique. Qui n'a pas eu d'insomnie ? Enfin, tant mieux celui qui n'en a jamais eu, mais c'est quand même assez rare. Ça peut être ses propres insomnies, les insomnies des autres. C'est une histoire de tissage entre de l'intime de soi, du rencontré, du vécu ou de l'entendu, comme on l'entend parfois. On fait du bruit des autres.
En effet.
Ouais, on est fait du bruit des autres. C'est-à-dire qu'on existe un peu à travers ce que sont et ce que font les autres. Alors, c'est des petits formats. Hein, je t'ai dit 3 à 8 pages. Et chaque histoire, à la différence des dernières nouvelles que j'avais lues, n'ont pas de lien. Enfin, si, le lien, c'est la nuit quand on ne dort pas. Voilà. En fait, c'est ce fait que c'est une sorte de no man's land qu'est la nuit. On n'a plus de marque sociale, on n'a plus rien à prouver, on est seul face à la nuit. On est
seul face à soi.
Voilà, tout nu. Et l'essentiel revient au galop avec une sorte d'acuité encore plus forte.
Oui, c'est toujours un peu, comment dire, on voit les choses toujours de façon un peu plus forte.
Plus forte, parfois c'est très dur justement, parfois, parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a rien qui enjolive. Voilà. Et cette fenêtre, ben, ça devient aussi un miroir, on se fait face. Alors ça peut être des moments très heureux, des impatiences, des nuits de déroute ou de remords.
Et d'angoisse.
Et d'angoisse, voilà. Et donc là, dans cet ouvrage, on rencontre des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des couples, des enfants. Et ce sont des portraits très intenses de vie presque très ordinaire. Voilà.
Bien. Tu nous fais découvrir ?
Alors, c'est parti. Et je commence par le début. Comme ça, elle introduit son livre.
Parfait.
La nuit entre dans la ville. La ville entre dans la nuit. Grise, mauve, bleue, noire. Les fenêtres s'allument, les contours s'estompent. Les lumières de la rue, les néons des boutiques, des restaurants, des cafés insistent encore, mêlés au faisceau des phares des voitures, aux feux de circulation. Les lumières des appartements, des maisons disparaissent peu à peu, renoncent, avalées, dissoutes. L'heure de rendre les armes, ou de résister un peu encore. Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois, une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils, tous ceux que le sommeil fuit ? À quelle part de leur histoire, de leur mémoire, à quels absents parlent-ils en silence ? Qu'attendent-ils ? C'est l'heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l'attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. Ils ne sont plus que cela, une présence à la fenêtre, un dos, une nuque, un profil, une main qui écarte un rideau ou un doigt qui trace des initiales sur la buée d'une vitre. Une vie derrière la vitre. Les lamelles du store écartées du bout des doigts. Nos nuits éveillées parlent d'étreintes, d'une silhouette évanouie, d'un geste retrouvé, de solitude accrochée à notre cou, de voix murmurées, de la couleur d'un mur sur une île saturée de lumière, d'une phrase recopiée de carnet en carnet, de l'attente d'un appel. D'un mot qui n'a pas été dit, d'un prénom qui nous hante encore. Où es-tu maintenant ? Face à la longue plaine qui peu à peu dévore, engloutit, demeure un point minuscule à la fenêtre, vigie immobile au milieu de la ville, incorporée à l'immensité de la nuit des hommes. Que racontent ces silhouettes silencieuses à la grande nuit bleue ? Il est tard, trop tard pour dîner, trop tard pour arriver avec des fleurs, du champagne et toute la bruine d'octobre accrochée au manteau. Elle sait qu'il est tard, mais elle espère encore. D'un doigt nerveux, elle vérifie l'écran de son téléphone toutes les 10 ou 15 secondes. Le mode silencieux est bien désactivé, aucun message ne s'affiche, pas un son, pas une vibration. Elle s'approche de la fenêtre, il va arriver d'un moment à l'autre, c'est sûr. Elle guette sa voiture, tend l'oreille, retient sa respiration. Derrière elle, la table est dressée pour deux. Chemin de table en lin rouge sombre, porcelaine blanche à filet doré, verre à pied, rien ne manque. Ni la corbeille de pain garnie d'une serviette en papier décoré de cœurs rouges et blancs, ni le vin, ni l'eau, ni les fleurs piquées dans de la mousse de fleuriste, arrangées en petits bouquets près de chaque assiette. Elle voulait une table romantique, elle y a passé du temps. Elle l'a photographiée et envoyée à sa meilleure amie. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Sa main gauche froisse le rideau qu'elle écarte puis le laisse retomber. Il a dit qu'il viendrait. Elle a passé une robe noire, courte, échancrée dans le dos, des bas noirs et des talons, des boucles d'oreilles métallisées qui caressent le haut de ses épaules. Elle a remonté ses cheveux, la nuque offerte. Elle a ombré ses paupières de brun mordoré et les a soulignées de noir. Elle a coloré ses lèvres d'un rouge explosif. Là aussi, elle a passé du temps. Il a dit qu'il viendrait. Elle hésite. Elle ne tient plus. Elle envoie un premier SMS, quelque chose de léger, des icônes festives, une bouteille de champagne et deux coupes, une femme en longue robe rouge qui danse. Elle lui demande s'il a eu un imprévu, s'il n'a pas oublié. Légère, elle se veut légère avant tout. Ne pas insister, ne pas l'effrayer. Surtout ne pas l'effrayer avec des rafales de messages insistants. Pas de pression, surtout pas de pression. Qu'elle ne dise rien de cette attente monstrueuse qui lui dévore le ventre. Elle se voudrait légère, comme une mésange, comme une libellule, quelque chose de gracieux, rassurant et désirable, qu'il ne s'effraie pas de tout ce qu'elle voudrait de lui. Ses boucles d'oreilles brillent avec insolence dans la vitre. La nuit est noire maintenant, seulement traversée par le faisceau des phares des rares voitures qui empruntent cette rue. Les effluves qui proviennent de la cuisine où elle s'est affairée dans l'après-midi lui soulèvent le cœur. Elle n'a plus faim. Son téléphone est toujours muet. Il est tard. Il a dit qu'il viendrait dîner. La phrase en boucle comme un mantra. Elle envoie un autre SMS. Elle s'inquiète maintenant. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il ne peut pas la prévenir. Il est peut-être sur un brancard au fond d'un couloir d'hôpital ou pire. Si ça se trouve, il a besoin d'elle. Sinon, il l'aurait appelée. Elle oscille entre l'angoisse et la colère. Ça tourne, ça s'en mêle et elle ne sait plus. La colère, peut-être. Elle vient de vérifier sur WhatsApp. Il était en ligne il y a quelques minutes. Alors, il est vivant. Il est vivant et il ne répond pas. Dans sa chambre, une bougie parfumée, cannelle orange et des draps frais. Toute la semaine, elle n'a pensé qu'à cette soirée. Le menu, la table, la robe et après. Très doucement, à travers les mini-enceintes disposées dans la pièce, la voix de Billie Holiday murmure « Long Gone Blues ». Elle ne l'entend plus. Elle ne comprend pas. Il a dit qu'il viendrait. Terminal 2E, porte F. Ils y sont. Ça fait 2 ans qu'ils en parlent, qu'ils lisent, qu'ils cherchent, qu'ils économisent. Embarquement dans 30 minutes. C'est elle qu'en avait parlé la première et il avait suivi. Son rêve à elle depuis toujours. Trop peu de temps pour y penser. Maintenant, ça devient possible. Retraitée, ça lui fait tout drôle. Elle a du mal à accepter le mot et puis on s'habitue. Du temps pour elle, sans compter, pour la première fois. Son rêve à elle, fond d'écran de son ordinateur, centaines de photos, applications sur son téléphone. Anami, 3 syllabes, le désir d'une vie. Elle se tient contre lui, menu, silhouette d'enfant presque, son sac cabine à ses pieds. Il fait froid dans ce hall, avec les portes d'embarquement qui se succèdent, les voyageurs assis dans les sièges en plastique noir et acier. Ils sont collés à leur téléphone ou à la recherche d'un chargeur, embarrassés de petites bouteilles d'eau, de sacs à dos, de valises cabines gonflées à craquer. Partout, des écrans affichent les horaires, les destinations, les délais, les retards, les recommandations, les interdictions. Pas grand-chose pour se réfugier. Vol pour Tokyo, embarquement dans 20 minutes. Les voyageurs se sont déjà agglutinés devant le comptoir, passeport, carte ou téléphone à la main. Maintenant que son rêve est à quelques heures de vol, elle angoisse. Et si elle était déçue? Et si cette explosion des fleurs de cerisier au printemps ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient imaginé ensemble? Aux 1000 photos triées sur son ordinateur, des fleurs de sakura à perte de vue, fichiers et sous-répertoires, espace urbain, espace naturel, lieu, date. Le sakura est un cerisier-fleur. Des fleurs à 5 pétales, légères comme un souffle, volupté pour les yeux. Au sol, la neige est rose, d'un rose infiniment clair. L'amoncellement des pétales finit par former une matière légère, mousseuse, mouvante. Cette envie, c'est une histoire de jardin, une histoire d'enfance. À l'arrière de la maison familiale, on accédait par une véranda à un carré de pelouse planté d'arbres. Il y avait ce moment de l'année qu'elle aimait par-dessus tout. Au milieu d'un massif, ce rosier qui donnait des quantités de minuscules boules roses sans tiges, tellement fragiles que l'on ne pouvait les cueillir. En fin de floraison, le spectacle la ravissait. Le sol était recouvert d'une abondance de pétales d'un rose très pâle, très léger, que le vent déplaçait et arrangeait en volutes audoyantes. Cette transfiguration du jardin durait quelques jours à peine. Jamais elle n'a revu quelque chose de semblable. Cette floraison n'existe que dans le jardin de sa mémoire. Lorsqu'elle a découvert l'existence du hanami, elle a tout de suite songé à cette pluie de pétales du rosier de son enfance. Il la regarde. Il voit sa paupière gauche qui tressaille légèrement. Viens voir. Il s'approche des larges baies qui donnent sur les pistes. Leur avion est là, dans la nuit, avec sa rangée de hublots ovales disposés le long du fuselage, avec son empennage triangulaire aux couleurs de la compagnie aérienne. Il les attend tous les deux, avec leurs rêves. Agents de piste en gilet fluo, lumière des hangars, des bâtiments, des entrepôts, les autres terminaux, les rangées d'éclairage qui balisent les pistes, un avion décolle presque à l'horizontale. Il distingue encore les feux sur les ailes, puis il se cabre et disparaît. Elle a froid. Elle glisse son bras sous le sien, la chaleur de son corps l'apaise, comme toujours. Elle n'y croit pas encore. Réaliser un rêve, c'est donc possible? Dans la vitre, c'est maintenant leur reflet qu'il voit, une double silhouette un peu étrange, l'un collé à l'autre. Lui, grand, massif, barbu, elle, légère comme un oiseau. C'est ça leur couple, l'ours et le moineau. C'est comme ça qu'il dit en plaisantant. Les passagers des sièges KAR sont invités à se présenter au comptoir d'embarquement. Tokyo, puis ce sera Kyoto, Osaka. Elle serre fort la main de son homme. Ils vont voir les cerisiers en fleurs. La nuit des aveux, je t'aime, je ne sais plus. Il s'est couché à l'heure, comme chaque soir, quand sa mère le lui demande. Il préfère obéir, ça évite les énervements. Dès qu'il est au lit, enroulé dans sa couette, ses jouets dispersés un peu partout à terre, il les entend. C'est comme ça tous les soirs, depuis déjà un moment. Il tend l'oreille, mais il ne saisit pas les mots. Il entend les voix, la colère, l'orage. Il parle fort, de plus en plus fort. Les voix se chevauchent et cherchent à se dévorer l'une l'autre. Il entend une porte qui claque. Alors il essaie de descendre le plus loin possible au creux de son lit, de descendre tout au fond de cette cabane tiède, de fermer les yeux de toutes ses forces. Le sommeil résiste. Il tente de penser aux entraînements de foot, à Mila, qui a partagé hier son goûter avec lui, à la maîtresse trop belle avec ses cheveux longs si douces qui lui a fait un compliment ce matin, juste avant la récré. « Il est très beau ton cahier ». Il tend l'oreille encore. Il a entendu un bruit. Une portière de voiture et le bourdonnement du portail électrique qui s'ouvre. Il se lève, repousse le rideau bleu pâle avec des lapins qui gambadent dessus. Celui qu'il a demandé à sa mère de remplacer, ça fait trop bébé les lapins, maman. À travers les interstices du volet, il cherche. Il fait nuit noire, mais le lampadaire de la rue diffuse un halo orangé sur une partie du jardin. La voiture de son père, la 208 grise avec l'autocollant triangulaire bébé à bord, tout décoloré, n'est plus là. Le portail est fermé. Les deux vantaux de bois brun sont clos, collés l'un à l'autre. Il entend sa mère débarrasser la table du dîner à la cuisine, puis la porte de sa chambre qu'elle ferme d'un bruit sec. Il attend. Puis il s'assied par terre près de la fenêtre. Comme ça, il est sûr d'entendre la portière quand son père va rentrer. Il ne veut pas dormir avant d'être certain que tout son monde est là, au complet. Il attend. Papa est parti. Trois mots qui tournent et s'entrechoquent dans sa tête. Papa, parti. Il se met à grelotter, claque des dents. Il finit par se glisser dans son lit sans oser allumer sa lampe. Parti. Parti pour de vrai? Parti jusqu'à quand? Parti à cause de moi? Parti pour toujours? Il serre son oreiller fort contre lui, l'oreiller avec des lapins, les mêmes que ceux du rideau, mais ceux-là, sur l'oreiller, pour dormir, il les aime bien, il leur raconte des histoires. Il les serre contre lui le plus fort possible. Pas question qu'on l'entende pleurer. Mais papa, parti.
À travers travers de l'humain, on comprend des choses controversant nos travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi de travers, je prendrai la pose, moi je les aime mes travers, donnez-les vôtres, j'en ferai quelque chose. Chacun s'installe des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause, c'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Au mani, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, blablabla, bla bla bla, et je le redis, père, mère, soeur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Controverse tes travers, en vers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.
Le point commun de tous ces personnages, en fait, c'est la nuit. Les nuits qui suivent, qui se ressemblent pas forcément, mais on se sent faire partie de cette humanité-là.
Bah oui, qui n'a pas vécu ce genre de nuit ?
Et oui, ces nuits où les choses passent et repassent dans la tête.
Voilà. Donc on a chacun sa nuit, si on peut dire, ou ses nuits.
Ou ses nuits.
Et avec des petites victoires, des défaites, ses rêves, ses réveils difficiles. Ce qui est intéressant dans cette série de, tu vois, micro-fiction, tu comprends bien le mot.
Micro-fiction,
c'est vraiment
tout
ça.
À fait.
Et c'est ciselé, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas de gras, que c'est bien précis,
que, oui.
Voilà. Eh bien, elle s'intéresse à des silhouettes et à des histoires. C'est des femmes, des hommes, on a vu, des jeunes, des vieux, gens de tous les âges, dont le point commun, c'est d'être traversés à un moment de leur existence par une émotion lancinante.
Lancinante,
la jeune femme qui attend son amoureux qui ne viendra pas. L'enfant qui voit que son père...
Le papa qui est parti. Ah,
c'est dur. Et voilà, elle capte, elle observe, elle consigne. Et c'est tous ces décalages entre les êtres, les espérances et les regrets. Voilà. Et la nuit déshabille nos certitudes et nos illusions. Voilà. Sauf quand on rêve, là, on a droit à beaucoup d'illusions.
C'est marrant, on se sent tous concernés, en fait, par ça.
Mais oui,
je suis sûr qu'on est tous concernés.
Pour ça
on a tous eu, à un moment donné...
Moi, je vous en sélectionne quelques-unes, mais il y a de tout, quoi. Vraiment tous les types de personnages...
C'est très juste, c'est en même temps mélancolique, ouais. Et puis pas léger, mais...
Simple,
oui,
très simple.
Simple, aérien.
Voilà.
Très bien, tu nous en fais découvrir d'autres.
Eh bien, avec plaisir,
C'est reparti.
On va commencer par une jolie, plus gaie.
Voilà.
Elle ne peut pas se détacher de la vitre. Elle n'a pas osé ouvrir malgré la chaleur, peur de faire du bruit, d'attirer leur attention et de les faire fuir comme des chats craintifs, comme des oiseaux. Ils sortent du café d'en face, ils sont presque les derniers. Seules deux ou trois tables paraissent encore occupées à l'intérieur. La terrasse s'est vidée. Ils font quelques pas sur le trottoir, sans hâte, serrés l'un contre l'autre. Ils ont attendu de sortir du halo du café. Elle porte une jupe courte en tissu foncé qui fait paraître ses jambes très blanches. Lui porte un pantalon en toile et un t-shirt noir. Ce sont ses bras qui paraissent très clairs. Ils s'arrêtent, se tournent l'un vers l'autre avec lenteur, avec une infinie lenteur, comme s'ils pivotaient juste sur leurs pieds au ralenti. Et ils s'embrassent. Ses bras forment un cercle blanc autour de ses épaules et à côté d'eux, rien d'autre que l'obscurité sur le trottoir désert. Derrière la fenêtre, elle n'a pas bougé. Elle a envie d'ouvrir, de respirer l'air tiède, mais elle attend. Elle les regarde encore. Elle pense à cette chanson. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout devant les portes de la nuit. Elle pense aux mots de Prévert. Elle se dit qu'ils sont là, les enfants qui s'aiment. Elle ne voit pas leur visage, mais elle devine qu'ils sont beaux. On est toujours beau quand on a un visage amoureux. On est toujours beau quand un visage amoureux se penche sur soi. Elle les regarde avec douceur, comme si son propre regard les protégeait. Ils sont seuls, ils sont nus dans l'immensité de leur joie. Elle croise les bras autour de ses épaules. Du bout des doigts, elle effleure son cou et elle frissonne. Quand ? La dernière fois. Elle soupire, relève la tête et regarde par la fenêtre. Ils sont partis. Ce sera donc celle-ci leur dernière chambre. Pour quelques heures encore, la nuit peut-être. C'est ce qu'ont dit les médecins. Il n'est pas souhaitable que cela se prolonge, pour personne. Il regarde ses bras tellement maigres sous le drap jaune pâle des hôpitaux de l'assistance publique. Il regarde son visage creusé, déjà cireux, les os saillants, les cheveux collés. Depuis 2 jours, il tient sa main et il n'a pas dormi. Tout à l'heure, l'une des infirmières du service, l'une de celles qu'il croise depuis ces longues semaines, lui a apporté un thé, très chaud, très sucré, avec 3 biscuits dans un sachet de papier transparent. « Il faut prendre quelque chose, monsieur Girard. Vous n'avez rien mangé depuis hier, j'en suis sûre. » Elle n'a pas le temps de s'attarder davantage. Déjà, elle a filé. Ce sera donc celui-ci le lit de leurs adieux. Ils fixent les montants métalliques laqués blancs, les moniteurs installés sur les petites tables roulantes, la rampe de néon au-dessus de la tête, le bouton d'appel, la microscopique table de chevet avec la boîte de Kleenex et une paire de lunettes posées dessus. Il se dit qu'on part dans le dénuement, comme on est arrivé. Il garde la main de sa femme dans la sienne, tente d'en apercevoir les ultimes frémissements, l'ultime chaleur. Elle a fermé les yeux, un très faible sourire étend ses lèvres pâles. Il ne sait pas si elle souffre. Quand elle ouvre les yeux, et c'est rare maintenant, il est transpercé. Il la reconnaît à peine, tant la maladie a raviné les chairs. Et là, dans ce sourire, dans cette esquisse de sourire, c'est elle, telle qu'il l'a aimée. Il caresse son avant-bras d'un geste doux et régulier, prononce quelques mots, lisse le drap, écarte une mèche de cheveux, humecte ses lèvres avec un Kleenex mouillé. C'est le cœur de la nuit. L'hôpital vit au ralenti, un état de veille active avec ce silence particulier tout autour d'eux. Il voit leur double reflet dans la vitre dont le store a été descendu. La poignée pend le long de l'huisserie métallique. La scène qui se joue dans ce reflet, c'est celle de sa fin de vie à elle, de la fin de leur histoire d'un demi-siècle de joie et de chagrin, d'humeur, d'incompréhension, de complicité. Il se dit que c'est la fin pour lui aussi. La barre de néon se dédouble dans la vitre, comme les lignes parallèles des montants du lit, et la silhouette émaciée qui y est allongée, le fauteuil en sky bleu dans lequel il est assis depuis 2 jours sans dormir. Il se dit qu'il aura tout le reste de sa vie pour se reposer. C'est donc celle-ci la dernière image de leur histoire. Il se rapproche encore d'elle le plus possible. Il tient ses 2 mains et continue à lui parler. Tant qu'il restera un souffle de vie, il ne lâchera pas ses mains. Il lui parlera. Rien d'autre ne compte. C'est leur dernière étreinte. La nuit déchirure, la nuit errante, la nuit qui appelle. À son retour, il s'est installé dans la petite maison que lui ont laissée ses parents. Une meulière, défraîchie au bout d'une rue terne après un long trajet en RER. Tout ce qu'il a évité toute sa vie, la maison de l'enfance. Mais où aller maintenant ? 20 ans d'avions, d'hôtels, de campements, de voitures défoncées, de camions bâchés au petit matin dans le froid. Courir le monde avec ses appareils photos, montrer, témoigner, la mort offerte sur papier glacé à déguster en terrasse ou chez le coiffeur. Personne ne l'a forcé, c'était son choix. Adrénaline et tout le bazar. Le héros ténébreux harnaché de Nikon. Et puis le reportage de trop. La scène de trop, il n'a pas pu déclencher. D'autres l'ont fait. « Tu vieillis, mon gars !» J'ai pas pu. C'est tout ce qu'il peut en dire. Pourtant, il en a vu d'autres, toujours le premier sur la brèche, le cœur et l'estomac bien accrochés. Un sacré pro, c'est ce qu'on dit de lui. Café, cigarette pour avancer dans la journée, un alcool fort le soir, parfois une présence dans son lit, de la peau vibrante, chaude, pour oublier les chairs mortes capturées dans son boîtier. Dans l'avion du retour, c'était clair pour lui. Arrêter. Arrêter le métier avant que les cauchemars ne le dévorent tout cru. Se mettre au vert. Il fera autre chose, il verra. Peut-être va-t-il s'ennuyer, sûrement même. Côté finance, il y a de quoi tenir un moment. On ne dépense rien avec cette vie nomade, pas le temps. À la rédaction, ils ont refusé sa démission. Prends ton temps, repose-toi, on en reparle. On te laisse pas tomber. Il ne s'attendait pas à ça, plutôt old school comme attitude, surtout de la part d'une DRH habituée à licencier comme on va chercher sa baguette. Il a claqué la porte de son studio et s'est embarqué dans le RER, sac à l'épaule, un peu de linge, des livres, son matériel. Le voilà collé à la fenêtre du séjour dans le pavillon aux pièces exiguës et aux décors fanés. Il a aéré, trouvé des draps, des couvertures, fait son lit dans son ancienne chambre d'enfant. Drôle de sensation. Mais le lit des parents, ça non, pas question. Rempli le frigo qu'il a remis en marche et qui ronronne comme un chat repu. Faudra faire des travaux s'il veut s'installer là. Tout a vieilli. Il remarque des traces d'humidité au plafond, les plinthes qui se décollent. Ou alors vendre. Il sait pas pour le moment. À dire vrai, il s'est pas posé la question. Pas d'urgence. Fils unique. Presque. Les armoires, les placards sont vides. Il s'en était occupé au décès de son père. Les robes de sa mère, ses affaires dans la salle de bain que son père n'avait pas touchées. Et les costumes, les cravates, trop de présence, trop d'absence. Il avait fait des sacs qu'il avait portés chez Emmaüs. Plusieurs allers-retours avec sa voiture de l'époque. Si je le fais pas tout de suite, je le ferai jamais. Alors il avait tout embarqué, en évitant de s'arrêter trop longuement sur une jupe ou un foulard, sur la robe bleu rayée ou col blanc qui dormait encore là près de toutes les autres. Dès le lendemain de son arrivée, il a déplacé la table du séjour, celle des repas du dimanche en merisier verni, que sa mère protégeait d'une épaisseur de molleton et d'une nappe imprimée de tournesol. Il l'a approché de la fenêtre, pas trop près non plus. Un peu de recul. Il a posé son appareil photo dessus, face à la fenêtre, choisi une focale un peu serrée, il a ajusté le cadrage, l'éclairage, choisi une vitesse lente. La même photo, jour, nuit. Il en a déjà des dizaines. Parfois, il déplace légèrement l'objectif, modifie l'éclairage, la vitesse de déclenchement, la nuit, le jour, la nuit encore. De toute façon, il dort peu. Il a tout saisi dans le cadre. Le papier peint aux guirlandes verticales de fleurettes roses et beiges, aujourd'hui décolorées, les rideaux qui s'écrasent au sol, l'espace découpé en 2 carrés et 2 rectangles par la fenêtre, la poignée difficile à tourner, en arrière-plan un peu flou le jardin. Parfois il change, arrière-plan net, fenêtre floue. Une bande étroite s'étend à l'arrière de la maison, une petite friche aujourd'hui. Il est très peu revenu, sauf en coup de vent, entre 2 reportages, embrasser ses parents quand même. Puis son père resté seul. Bon fils, mauvais fils, dépend des jours. Cette maison, il s'en est éloigné dès qu'il a pu. Il s'approche de nouveau de la fenêtre, interroge la nuit. On y voit peu, mais c'est net. Le jardin est vide. C'est de cette fenêtre ouverte un jour d'été qu'il avait crié à son frère, gigotant debout sur la balançoire. « Allez, vas-y, plus haut, mais vas-y, espèce de chochotte !» Il était allé plus haut, le gamin, presque à la verticale. Et tout en haut, soudain, il avait lâché les cordes. Lui était resté tétanisé à la fenêtre pendant que sa mère accourait. La robe bleue rayée qui traverse le jardin, son cri, plus rien à faire. Il avait fallu continuer à vivre, tous les trois, plus ou moins. Après, il avait rempli les trous de l'absence avec le sérieux, avec l'obstination d'un enfant qui vide la mer avec son seau de plage. Une histoire de Danaïde, de jamais fini, de toujours recommencer. Les pas sur le fil et les bras en balancier. Son petit frère, 6 ans, pour toujours. Il le voit encore dans ce mouvement de va-et-vient qui l'emporte toujours plus haut, toujours plus loin du portique en métal vert foncé que son père avait déboulonné quelques jours après le drame. Parfois, les fantômes nous rendent visite. Il attend. Elle s'est assise devant la tablette étroite en faux bois stratifié qui fait office de bureau dans cette chambre d'hôtel et elle regarde fixement le rectangle sombre, froid de la fenêtre. Elle ne voit que la moitié de son corps dans le reflet, juste son buste, un coude posé sur la tablette, une main qui soutient son visage légèrement penché, l'autre qui glisse sur un bloc de feuilles blanches. Elle se met à écrire. Il est tard. Des heures de train, puis un trajet en voiture, son bagage hâtivement laissé dans la chambre d'un hôtel dont elle sait à peine le nom, et puis la rencontre avec les lecteurs autour de son dernier livre. Le dîner ensuite, joie et fatigue, parler encore. Retour à la chambre, le voyant vert qui s'affiche sur la serrure au passage de la carte magnétique. Déposer les vêtements sur la chaise, sortir ceux du lendemain, passage à la salle de bain, échanger le visage du jour contre le visage du soir. Ne pas s'attarder sur les marques de fatigue. Dormir. Il faudrait dormir. C'est l'heure des derniers messages lus et échangés sur son téléphone. La vie de la maison loin d'ici, je vous aime, je t'aime, à demain. Elle voudrait dormir, mais le sommeil ne vient pas. Alors, elle écrit. Elle écrit dans cet hôtel inconnu, dans cette ville inconnue, dans ce lieu qui lui offre une halte pour quelques heures, jusqu'au train du matin. Il y a des mots qui demandent à être déposés, là. Des mots qui se bousculent face à la nuit, des mots nés de la nuit. Elle ne sait pas où ils l'emmèneront, mais ils apparaissent, ils l'emportent. Alors il faut leur faire de la place, les écouter venir et leur tendre l'espace de la feuille. Un passage se dessine, tracé par un couloir de mots, et rien d'autre ne compte que cet instant. Quelque chose se creuse au cœur de l'obscur, quelque chose d'oublié, d'abandonné, d'incertain, qui demande à vivre. L'abat-jour éclaire la main et le stylo, derrière elle le livre ouvert attend. Quelque chose est en train de naître sur ces lignes irrégulières tracées avec hâte. Elle écoute et elle accompagne cette naissance, où qu'elle soit. Quand l'écriture est là, elle est son foyer, son arbre, son monde au bord du monde. L'écriture se faufile entre les silences. Elle cherche ce qui n'a pu être dit, ce qui fait peur, ce qui fait cri, ce qui fait joie. Elle cherche le passage secret un jour entrevu. Le cours d'eau où aller à la dérive. Elle sursaute, une porte claque, celle de la chambre voisine, des voix, femmes et hommes mêlés, et le silence. Il y a de la vie quelque part ici, autour d'elle, une vie bien présente mais invisible. Elle se demande à quoi ressemble ce couple de l'autre côté de la cloison. La femme brune en manteau beige aperçue à la réception ou l'étudiante en sac à dos et dreadlock arrivée juste après elle. Le commercial en parka rouge North Face sur costume gris, avec une grosse mallette. Au loin, elle perçoit le tintement étouffé des portes de l'ascenseur quand il s'arrête à son étage. Parfois, l'écriture l'emmène au bord du vide et la retient là, sur cette frontière. Et puis, au dernier moment, elle la sauve de l'effroi, de la tiédeur, du demi-jour et des colères tristes. Elle poursuit son travail obscur de sourcière. Elle écrit ce qui se tisse sous sa main. Ce qui demande à venir. Elle écrit un morceau de nuit traversé d'un vol d'oiseau, d'un trait de lumière. Elle ne sait pas où ça l'emporte. Peut-être écrit-elle ce lieu aussi, celui qu'elle habite en rêve, là où les champs de blé viennent caresser la mer. Elle écrit. J'écris.
Thank you.
I won't be beat like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, longer too. Drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by mayor of decree, all from zone to loading zone of my town, yeah. Girls and a dying daddy, but oh so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life.
Et voilà, les nuits se suivent et ne se ressemblent pas.
Hein. Donc là, elle parle un petit peu d'elle, là.
Oui.
Quand elle dit...
Oui.
Elle écrit, j'écris.
Exactement, oui. Dans la dernière histoire, on voit que c'est elle-même qui s'est mise en scène. Alors, elle avoue qu'elle souffre d'insomnie.
Hein. Oui, on l'avait un petit peu compris, je pense.
Alors...
Et donc, elle prend comme ça ces instants dans la nuit, là, que l'état de veille fait vivre en nous.
Alors oui, alors comme tu m'as fait cette réflexion, c'est pas toujours très gai tes histoires.
C'est pas toujours très gai, hein.
C'est vrai, mais... Alors...
Entre le fantôme du petit frère, la dernière chambre, le...
Oh ben les amoureux qu'on voit à la fenêtre, c'est plutôt
oui,
sympa.
Oui, enfin c'est pas...
Sauf qu'on voit que la femme a un petit regret de sa jeunesse passée.
Ou papa parti aussi, c'est triste.
Oui, oui, oui. Ben oui, alors je ne sais plus quoi faire, je suis paralysée parce que j'ai pas beaucoup d'histoires pour finir.
C'est le livre qui est comme ça. Hein, c'est
voilà, pas... ou alors je vais essayer d'en trouver une légère pour la fin, je ne sais pas.
Allez.
Bon, allez, on va
c'est
se débrouiller. Elle craint que cela arrive encore. Elle ne l'a pas avoué à ses enfants. Ils sont loin de toute façon. La voisine apporte quelques courses. Pas besoin de grand-chose. Elle monte le courrier. Pas grand-chose non plus. Des dépliants publicitaires dont elle n'a pas besoin. Les factures d'électricité, c'est tout. Elle ne sort plus, ça fait des semaines. L'air frais du palier quand elle ouvre la porte à Madame Ferreira la suffoque presque. Elle écoute la vie autour d'elle le jour. Les cris dans la cour d'école voisine cadencent sa journée. Récré du matin, temps du midi, récré, heure des parents, goûter de ce qui reste à l'étude. À le week-end, ça lui manque. C'est à peu près tout ce qui lui reste du monde du dehors maintenant. Les enfants qui courent vers leur vie en criant. Elle n'arrive plus à sortir. Elle a rangé son manteau dans la penderie de l'entrée avec ses chaussures, son sac à main et tout ce qui lui rappelle l'extérieur. Deux fois, elle est tombée. Deux fois. Une fois de trop pour croire au pas de chance. En manquant le trottoir d'abord, hanche endolorie, épaule meurtrie, lunettes tordues, elle s'en est bien sortie, c'est ce qu'elle s'est dit. Et puis en descendant du bus, elle faisait pourtant attention, la marche est haute, mais elle a l'habitude, elle se tient. Le pied lui a manqué, elle ne comprend pas. Les gens autour d'elle, les pompiers, efficaces, rassurants, le plus jeune avait l'air d'un adolescent, elle a pensé à son petit-fils. Elle aurait voulu lui demander son âge. Dans le camion, c'est lui qui parlait pour la tenir éveillée, surtout qu'elle ne perde pas connaissance. Et l'hôpital, les radios, la tente, eau usée, friable, amincie. Ils ont fait leur temps, rien de cassé. Vous avez eu de la chance, madame. Alors elle ne veut pas de troisième fois. Tant que madame Ferreira sera là, ça ira. Mais elle va partir cet été, son rituel, son mois d'août dans son village près de Braga, depuis 30 ans. Comment va-t-elle faire ? Dans un angle de la pièce, elle voit les cannes anglaises qu'on lui a fait acheter au sortir de l'hôpital. Deux jambes en aluminium brillant surmontées d'une poignée en plastique noir. Ergonomique, avait dit la pharmacienne. Truc de vieux, oui, avait-elle pensé, mais pas le choix. Faudra bien ressortir un jour, hein. S'il n'y avait pas ces escaliers, deux étages sans ascenseur. Pas le bout du monde, c'est ce qu'elle s'était dit lorsqu'elle avait emménagé. Le bout du monde maintenant. Il faut qu'elle se l'avoue. Elle a peur. Elle n'a plus confiance en elle. Mettre son manteau, vérifier ses clés, son porte-monnaie, bien fermer la porte, faire attention dans l'escalier avec cette minuterie trop courte. Dans son sac, elle a préparé un papier à contacter en cas d'urgence. La liste n'est pas si longue. Derrière les voilages à franges en polyester qui arrivent à mi-hauteur de la vitre, elle tente de deviner l'heure. Elle se lève tôt. Bien trop tôt pour ce qu'elle a à faire de la journée. 6h17. C'est encore la nuit. La pleine nuit. Elle calcule. Dans 2 heures à peine, les enfants vont commencer à arriver. On est lundi, enfin. Les cris des enfants vont reprendre. Elle les attend. Elle attend la vie.
Ça va, c'est assez gai, ça ? Moi, j'ai sauté le suicide.
Il veille et il regarde le fleuve. Le fleuve s'écoule en roulant d'un flux continu, un flux qui semble couler depuis la nuit du monde. Son travail, c'est de veiller. Il arrive au soir dans le silence des bureaux vides, il s'installe dans la petite pièce équipée d'écrans, de téléphones. Il va guetter, nuit après nuit, ce qui pourrait survenir. Derrière sa chaise à roulettes, sur une table, il y a une cafetière, un plateau avec 2 mugs en faïence blanche siglés du logo de la société, une boîte à sucre, une bouilloire, des sachets de thé, scellant, thé vert à la menthe. En arrivant, il a accroché sa parka au dossier de sa chaise, glissé les gants et le bonnet dans les poches. Il peut commencer sa veille. Les murs d'écran montrent en gris, légèrement tremblotants, des corridors déserts, des salles de réunion et des bureaux vides. Si les détecteurs de mouvement s'affolent, c'est qu'il y a un problème. Une probable intrusion, il connaît la procédure. À ce jour, ça n'est jamais arrivé. Mais il reste en tension. Au siège, le mois dernier, les bureaux ont été visités. Suspicion de cambriolage à des fins d'espionnage industriel. C'est ce qu'on leur a dit. Alors, vigilance renforcée. Une sonnerie le fait sursauter. Il consulte sa montre. Ah, c'est déjà l'heure d'aller faire sa ronde. Lampe torche, oreillette, un étage après l'autre en grimpant jusqu'au dernier. Il enfile son bonnet, noue son écharpe, les locaux ne sont pas chauffés la nuit. Pourtant, c'est le moment qu'il préfère, sa ronde de nuit. Il finit par s'enquiloser sur son fauteuil à roulettes, à scruter les écrans muets et à enchaîner les mugs de café. Il arrive au dernier étage, dans la grande salle vitrée d'un seul tenant, du plancher au plafond. C'est vertigineux, mais il aime cette sensation. Derrière lui, des ordinateurs éteints sur leurs pieds en alu, les uns à côté des autres, sur des bureaux en enfilade. Devant lui, le fleuve et son scintillement continu. Le périph, phare blanc, phare jaune, lumière rouge, gyrophare, voiture, camion, taxi, moto, ambulance. Il pourrait rester là le reste de la nuit à fixer le flot. À travers le double ou triple vitrage, on n'entend rien, c'est un glissement silencieux et infini. Qui sont-ils tous ? Où vont-ils aux heures les plus obscures de la nuit ? Qui les attend ? Parfois une voiture de police ou un véhicule de pompier impulse une accélération en trouant le flux, lequel retrouve ensuite sa régularité. Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Il aimerait savoir. Il peine soir après soir à s'arracher à ce spectacle. Il a l'impression par sa seule présence, en surplomb au ras de la vitre, de veiller sur eux, sur chacun d'eux. Un peu comme le Christ de l'abbé de Rio. Son visage a la couleur de l'ombre. Ses yeux ont la couleur de la nuit. Il remue les lèvres, mais on n'entend pas. Une fine buée couvre la vitre devant sa bouche. Il murmure pour les absents. Ces mots qu'on n'entend pas, qu'il psalmodie en un long ruban continu. Il est certain qu'ils les entendent. Là-bas, au-delà de cette baie vitrée, au-delà des mers, au-delà des sables et des montagnes. Il psalmodie dans sa langue, dans la leur. Il leur dit l'absence, la distance, les villes qui blessent et qui dévorent, les regards qui ne voient pas et qui transpercent. Il leur dit le peu de fraternité. Il leur dit l'argent qu'il a envoyé comme chaque semaine. Il voudrait raconter le guichet, la longue file des « comme lui », mais ces mots-là, il ne les dit pas. Il dit « ça va bien », il demande des nouvelles, la santé des mariages, les enfants, les naissances. Il parle à sa mère accroupie au bord du feu, à tisonner les braises avec un bois durci, fixant une flamme qu'elle ne voit plus de ses yeux blancs. Il poursuit sa psalmodie pour elle et ses absents. Il veille. Il aime à se répéter ce mot. Je veille. Son regard embrasse le long rectangle au bord arrondi, balayé à intervalles réguliers par les essuie-glaces qui repoussent avec obstination les gouttes de pluie sur les côtés. Par-delà la glissière, les phares de ceux qu'ils croisent et devant eux les feux rouges de ceux qui les précèdent. Une voiture au milieu du flot, 2 heures qu'il roule. Elle lui tend une bouteille d'eau et lui propose un biscuit enveloppé de papier cristal. Il prend l'eau, propose de monter un peu le chauffage. « Ça va pour toi comme ça ?»« Encore 1 heure et ils retrouveront leur appartement. » Dimanche soir, retour de week-end. Ils ont déjeuné en bord de mer, marché sur la plage, puis il faut rentrer. La nuit tombe tôt en cette saison. D'ici quelques semaines, les jours vont rallonger, c'est ce qu'elle préfère dans l'année. Cette promesse de lumière repoussée un peu plus chaque soir, gagnée sur la nuit. L'obscurité les entoure. Elle s'enroule dans son écharpe, ferme les yeux. Sa main à lui, posée juste au-dessus du genou, une onde chaude. Elle garde les yeux fermés, elle se dit que c'est là, exactement là, à cet endroit précis, qu'elle aime sentir le poids de sa main, la chaleur de sa paume. À ce moment-là, ne rien désirer d'autre. Elle ouvre les yeux, saisit son téléphone dans son sac à ses pieds et lance une musique de sa playlist. Guitare gitane, alegrias. Les essuie-glaces poursuivent leur inlassable mouvement pendulaire. Elle ferme les yeux de nouveau. Elle regarde le cercle du volant, les deux mains solides posées de façon symétrique, et puis l'écran du GPS avec la petite flèche bleue sur la ligne qui oscille au fil des courbes de la route. C'était bien Cordoue, hein ? Elle sourit sans répondre et son sourire s'élargit encore lorsqu'elle voit le sien et le regard en coin qu'il lui jette sans quitter la route des yeux. Ouais, c'était bien. L'ombre dans les ruelles aux murs blancs, les arcades, les patios, les jardins avec leurs cascades de bougainvilliers, roses ou violettes. Viens, regarde, les verts de Riora, rouges, sombres et presque noirs, bus en terrasse, les oranges pressées le matin, les eaux jaunes du Guadalquivir en contrebas. Ouais, c'était bien. Les rideaux qui dansent devant la fenêtre de la chambre, et cette journée qu'ils y ont passée sans sortir, à dériver sur l'océan infini du lit. Viens, son souffle sur sa nuque à elle. Au péage, elle regarde des enseignes plantées alentour. On peut acheter des voitures, des piscines, des articles de sport, du matériel de bricolage, des appareils électroménagers, des ordinateurs, des bijoux, des lunettes, des cuisines complètes, des jouets, des vêtements, des luminaires, du chocolat belge et du poulet frit. On peut aussi louer un garde-meuble ou une pelleteuse. Elle se dit qu'elle n'a besoin de rien de tout ça. Elle écoute Alegrias. Elle a tellement aimé ce voyage, ce souvenir des belles choses. Elle a lu ça un jour, ça l'a marqué, sans souvenir, et les laissait parfois affleurer à la surface de la mémoire, comme on retrouve au fond d'une poche un morceau de verre dépoli ramassé sur la plage, ressuscitant à lui seul une saveur. Une senteur d'océan, faite de la mémoire de toutes les vagues qui l'ont portée jusqu'au rivage. Elle regarde ses mains, ferme les paupières. Elle songe à ce que personne ne pourra lui prendre. Elle se dit que parfois, tout est bien.
J'essaye 2-3 pauses. Je joue des hanches, j'ose une timide Marilyn. Je relève. lève mes cheveux et frôle ta peau avec mes yeux. J'ai le feu de Springsteen. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. Je sais pas que tu es beau quand tu prépares tes mots, tendre maladresse. Je tente de t'approcher tant la musique est forte pour parler. Tous mes mots sont des gestes. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît sans savoir qui on est. Sans savoir qui on est. On se bâtit une île sur un coin de bar. Battement de cils, top départ. Qui peut me dire ce soir comment se finit l'histoire? À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît. À l'évidence, sans savoir qui on est. À l'évidence. À l'évidence. À l'évidence. À l'évidence, on ne se connaît pas. Ces nuits de chance ou d'une seule fois. À l'évidence, on se plaît.
Il y a une grande variété de personnages et de situations hein, dans, son, ouais, ouais, dans ce qu'elle écrit.
Oui, oui. Et puis j'ai pensé à ce que tu disais. Il y avait des histoires peut-être un peu plus légères, mais la légèreté est toujours une petite couche.
Oui.
Mince. Sauf le dernier, hein, qui n'a pas vécu ces moments où on somnole dans une voiture la nuit.
C'est... Voilà.
Que ce soit enfant ou adulte, d'ailleurs. Mmh.
C'est marrant. Ça fait. On se disait tout à l'heure là. Pendant que la musique passait, ouais. C'est un petit côté cliché, photographie.
Photo, oui, 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 un moment, un instant.
Un petit instantané.
Ouais.
Voilà. Voilà. Et elle fait ça très bien.
Voilà, elle essaie de décrire nos vies, enfin des éclats de vie, des petits bouts.
Des petits bouts de vie, exactement.
Et elle nous embarque dedans à chaque fois, même si c'est très court. Ça,
et
c'est
ça
fort.
Marche bien, ouais. Ça marche bien. Bien, tu peux nous rappeler les références.
Alors,
de
surtout,
ce
je voulais rajouter avant de rappeler les références que même si on n'aime pas lire les nouvelles et tout ça, qu'on aille vers ses romans, car elle a cette même écriture, mais dans une histoire.
C'est une belle écriture. Hein.
Voilà,
ouais,
et
oui,
vraiment, elle a de très beaux romans. Hein. Mmh. Donc, je conseille aussi. Alors, le livre, mais il s'appelle « À quoi songe-t-il ?»«
À quoi songe-t-il ?»«
Ceux que le sommeil fuit. »
Et non donc... pas « À quoi songe ceux que le sommeil fuit ?»
Voilà, c'est un autre exercice. Ça a été publié par les éditions Noir sur Blanc. En fait, il y a une petite édition de poche hein, chez Notalia, donc accessible.
Oui, parce que c'est récent, hein,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est récent, hein, ouais. Vraiment récent. Et puis, si c'est dans les librairies, mais c'est aussi dans les bibliothèques, si on veut tester avant d'acheter.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte. Et puis, bah, comme c'est notre émission de décembre, à l'année prochaine.
Alors, à l'année prochaine. Et je vous souhaite que vos insomnies ne soient pas dues à vos soucis, mais au plaisir d'être ensemble pour fêter la nouvelle année. Allez, au revoir.
Au revoir, tout le monde.